Xuno Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Xuno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette émission de Priorité Santé enregistrée à Sali, près de Dakar. Au cours des trois dernières décennies, les militants associatifs se sont affirmés comme des acteurs clés dans la lutte contre le sida. Des acteurs visibles, utiles et indispensables car ils ont toujours su rappeler à la sphère médicale et aux décideurs politiques la dimension humaine et l'urgence sanitaire et sociale de la pandémie à travers des modes d'expression divers. Ce rôle associatif ne s'est pas limité à celui de groupe de pression à travers une communication revendicative. Très vite, ces militants issus des communautés, proches des malades, personnes séropositives, chercheurs engagés ont partagé leurs connaissances et leur expertise acquise sur le terrain. Ceux qui, hier, pouvaient gêner les institutions et se retrouvaient contraints, trop souvent, de devoir se justifier, ont acquis ces dernières décennies une véritable légitimité. Parmi ces acteurs engagés pour le respect des patients, leurs droits et l'accès aux soins, le réseau Coalition Plus célèbre ses 10 ans ici au Sénégal en réunissant près de 350 de ses militants. Coalition Plus, c'était au départ 4 associations de lutte contre le sida. Aujourd'hui, ce sont 14 organismes adhérents, une centaine d'associations présentes dans 40 pays. 10 années riches en changements sur le plan des traitements, de l'accès aux soins, de l'évolution de l'épidémie sur le plan mondial, une décennie de changements que les associations continuent d'accompagner alors que beaucoup reste à faire, tant du point de vue de la recherche que de la prise en charge, également de la lutte contre les discriminations. Disons de Coalition Plus, la communauté au cœur de la lutte contre le VIH-Sida. Avec nous, autour de cette table, professeur Hakim Aimich, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin infectiologue, présidente de Coalition Plus, présidente fondatrice aussi de l'association marocaine de lutte contre le sida. Vous représentez la plateforme Maghreb Moyen-Orient, ici à Sali, au Sénégal. Et avec nous également, pour la plateforme Coalition Plus Afrique de l'Ouest, docteur Bintou Dembélé, bonjour.
Bonjour.
Directrice de l'association Arcade Sida Mali, administratrice de Coalition Plus. Pour la plateforme Océan Indien, Nicolas Ritter, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez l'association Pils Maurice, vous êtes vice-président de Coalition Plus. Et enfin, avec nous, Yves Yom, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinateur du réseau AGCS, l'Alliance Globale des Communautés pour la Santé et les Droits à Douala au Cameroun, un réseau thématique de cette coalition qui fête donc sa décennie d'existence.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Hakim Aimich, un congrès donc de Coalition Plus ici au Sénégal. Première question un petit peu évidente, pourquoi avoir choisi ce pays, le Sénégal?
Si vous permettez, nous ne le fêtons pas. On aurait bien aimé ne pas être là. On aurait bien aimé que l'épidémie soit terminée. Hein. Nous commémorons, nous célébrons ces 10 ans de lutte qui, en fait, malheureusement, annoncent d'autres années de lutte.
Malgré tout, même si le terme fêté n'est pas tout à fait approprié, il y a quand même des avancées, il y a des choses positives dans l'action que vous avez menée qui donnent aussi envie de dire on a bien travaillé, on a fait des choses.
Ah, c'est sûr. En 10 ans, le chemin parcouru est énorme. Énorme. Entre 2008, où nous avons créé cette union à l'initiative de AIDE, à qui je rends hommage, c'est une idée du directeur de AIDE et du président de AIDE de l'époque. C'est grâce à un financement d'association française AIDE que nous avons pu créer la coalition et elle continue d'ailleurs à nous co-financer aujourd'hui. Entre le moment où nous avons créé, où nous n'avions pas des liens très forts entre nous et ce que nous sommes devenus, c'est-à-dire nous sommes devenus vraiment une union où il y a des liens très très forts, où il y a une réelle mutualisation de toutes nos réalisations, où il y a un renforcement des capacités sur tous les plans, que ça soit sur le plan de la gestion administrative et financière, parce que je voudrais quand même rappeler, je crois que c'est important, que pour être membre de Coalition Plus, il faut avoir des comptes audités par un commissaire aux comptes sans réserve depuis au moins 2 ans.
Transparence.
transparence totale, c'est la première exigence. La deuxième exigence, c'est d'être communautaire, et c'est un terme sur lequel nous aurons sûrement l'occasion de revenir pendant l'émission.
Je reviens à ma question quand même. Pourquoi le Sénégal ?
Pardon, excusez-moi, j'avais oublié votre... C'est évident. C'est évident pour nous. Il y a, en 2015, à une conférence internationale, il y a un rapport de MSF qui a été une véritable bombe. Ce rapport nous disait que l'Afrique de l'Ouest était très en retard dans la lutte contre le sida par rapport au monde, mais aussi par rapport à l'Afrique australe, avec des données vraiment préoccupantes que je laisserai le soin à Bintou de rappeler. À tel point, la situation est tellement inquiétante qu'il y a un plan de rattrapage qui a été lancé, initié par l'ONU SIDA. Et donc, pour nous, c'est évident. En plus, nous avons un membre observateur, l'ANCS, très important, qui nous accueille et que nous remercions.
10 ans, vous avez parlé justement du départ, de la genèse, mais sur l'évolution en 10 ans, qu'est-ce que vous avez vu changer? Qu'est-ce que vous avez vu évoluer avant de donner la parole à l'une et aux autres?
Le sentiment d'appartenance à coalition, il était abstrait au départ. Je dis pas qu'aujourd'hui le militant du petit village sait tout à fait ce qu'est coalition, mais nous y travaillons. Nous avons un sentiment d'appartenance énorme. Nous avons vraiment une entraide très importante.
C'est sécurisant pour les gens qui sont sur le terrain.
Énormément. Énormément. Nous avons vraiment mutualisé nos expériences positives, comme je le disais tout à l'heure. Nous avons une voix qui porte au niveau international.
Alors, ce mot-clé, c'est communauté, docteur Bintou Dembélé. Comment ça se traduit chez vous au Mali, cette implication militante au cœur de la communauté ?
Arkat Sida est une association communautaire. Ça veut dire c'est une association qui implique au plus haut niveau de nos instances, les personnes concernées. Ces personnes concernées, ce sont là nos bénéficiaires. La démarche que nous adoptons, c'est avec les personnes que nous faisons nos activités. Nous avons développé la stratégie de pééducation, la stratégie des médiateurs. Ce sont tous des personnes qui sont concernées, qui sont au devant de la scène. Les personnes sont impliquées, les personnes sont intégrées au cœur de l'action, et c'est ça la démarche communautaire qui nous anime au sein de coalition, et c'est ce que nous partageons tous ensemble.
Ça permet de comprendre que ces personnes qui sont directement concernées, ce sont des fils, des sœurs, des mères, des voisins, et pas simplement des malades. On est tous ensemble et on est tous finalement dans la même lutte commune. C'est pas des gens à part.
Non. C'est parce que nous sommes tous animés du même sentiment. Nous avons tous ce sentiment de partage-là. La lutte contre le sida, c'est notre affaire. Aujourd'hui, il est indispensable qu'on ait cette fibre militante-là, cet engagement-là, pour participer à nos activités.
Comment vient cet engagement associatif, docteur Bintou Dembélé, quand on est soi-même issu du corps médical ?
J'ai été, depuis le début, il y a 20 ans, après ma thèse, j'ai été membre fondatrice de l'association Arkat Sida. Il y a 20 ans au Mali, la lutte contre le sida se résumait justement à faire la prévention. Étant médecin de formation, nous avons engagé depuis cette époque-là un militantisme pour amener les soins au Mali. Et c'est ça qui a fait la fibre militante, c'est ça qui a fait la différence. Le médecin se contentait juste de dire qu'il n'y avait pas de traitement. Nous, on est allé chercher le traitement pour les malades. Et c'est ça, cet engagement militant-là, qui est resté depuis 20 ans.
Et d'ailleurs, professeur Hakim Aimich, cette expérience du sida, aujourd'hui, c'est l'ensemble des patients, c'est l'ensemble des maladies qui sévissent sur la planète, qui en tirent d'une certaine manière certains bénéfices, puisque cette ouverture, cette visibilité du patient expert, du militant dans la cité, c'est quelque chose qui a complètement changé la donne dans le rapport de la santé mondiale.
Vous avez parfaitement raison. Permettez-moi juste de corriger un terme.
J'ai encore
nous sommes très pointilleux sur le fait que les personnes vivant avec le VIH ne sont pas des patients. Ils se portent bien sous traitement. On ne parle plus ni de malade ni de patient. Vous avez utilisé un terme très important. C'est la personne originaire de la communauté qui devient elle-même un expert. Ça, c'est énorme. Mais pour devenir un expert, Bintou n'a eu besoin de rien. Elle était formée, elle est médecin. Mais quand vous prenez un jeune homosexuel qui travaille sur le terrain, il a besoin de renforcement de ses capacités. Il a besoin d'avoir confiance en lui et nos structures le leur permettent.
Alors, des parcours différents pour chacun d'entre vous invités aujourd'hui dans Priorité Santé. Nicolas Ritter, d'où vient votre engagement? On rappelle, Maurice, pourquoi justement avoir créé l'association nationale à Maurice, PILS, pourquoi justement cet engagement?
Parce qu'en 1994, quand j'apprends ma séropositivité, je réalise que dans l'île Maurice, il n'existe ni traitement, ni médecin, ni structure d'accompagnement. Et mauricien de père et français de mère, j'avais moi accès à l'île de la Réunion, tout à côté, à toutes ces structures d'accompagnement, de soins, de traitement, et je trouvais tout cela d'une injustice criarde et insoutenable. Et c'est vraiment ce sentiment qui m'a animé pour me dire qu'il fallait que ça change dans mon pays, qui est l'île Maurice. Et du coup, avec des proches et des personnes qui ont suivi cette vision, on a commencé tout petit, et puis progressivement, on est devenu l'association référente en matière de lutte contre le sida, avec comme première priorité, l'accès au traitement pour toutes les personnes qui en ont besoin.
Et aujourd'hui, c'est satisfaisant par rapport justement à votre point de départ. Vous dites aujourd'hui,
oui, bien sûr,
la couverture est satisfaisante, cet accès à Maurice, Nicolas Ritter,
c'est... Ouais. On a beaucoup de chance par rapport à d'autres pays africains d'avoir un état providence où la santé est totalement gratuite, et du coup le plaidoyer n'a pas été si compliqué à mettre en place, et dès 2002 les traitements antirétroviraux étaient accessibles universellement pour tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à améliorer quand même en termes de suivi, d'accompagnement dans le soin, de maintien dans le soin, d'autant qu'on travaille essentiellement à l'île Maurice avec des populations extrêmement marginalisées, en l'occurrence des personnes qui s'injectent des drogues, qui constituent la majorité des personnes vivant avec le VIH à l'île Maurice. On a étendu nos services aussi, pas simplement au VIH, mais à l'hépatite C, ainsi que Coalition Plus d'ailleurs. C'est un travail compliqué puisqu'on travaille avec des populations en marge et on travaille dans le politiquement incorrect. Donc forcément, c'est un travail passionnant qui évolue chaque jour, mais qui est tellement riche qu'on ne s'ennuie jamais.
Alors, 10 années de Coalition Plus, mais bien davantage d'années d'engagement aussi pour vous, hein, Yves Yombe. Une action centrée sur le droit des communautés au sein de l'Alliance globale pour la santé des droits. Est-ce que ces droits ont évolué? Est-ce que vous avez vu changer les choses au Cameroun?
Parler de changement sur le côté droit, je dirais c'est trop dire, parce qu'il y a toujours la pénalisation de l'homosexualité. Les gens sont toujours incarcérés pour le simple fait d'être homosexuel. Donc à ce niveau, je dirais pas qu'il y a changement. Mais on voit quand même une petite évolution dans l'attitude des autorités, même de la communauté. Quand je dis communauté, je parle de la population en général, où on commence à parler de ces sujets-là qui étaient tabous à l'époque. Et donc maintenant, on commence à en parler. Et même dans le cadre de la lutte contre le sida, où les personnes homosexuelles sont une priorité dans les différents plans stratégiques de lutte contre le sida. Donc pour moi, je dirais pas que rien n'a évolué, mais je dirais l'évolution, elle n'est pas comme on l'attendait, elle est quand même là.
Elle existe du côté sanitaire, elle n'existe pas forcément du côté judiciaire, du côté légal. Ouais. En tout cas, quand justement la loi interdit d'être ce que l'on est, comment on peut agir?
Ben, quand ça interdit d'être ce que l'on est, comment est-ce qu'on peut agir? Ça, c'est la grande question qu'on me pose aux autorités de nos différents pays, pas seulement au Cameroun, mais dans la sous-région Afrique francophone en général, en leur disant, oui, on nous dit qu'il faut prendre en charge les populations clés, notamment les personnes homosexuelles, mais comment est-ce qu'on peut arriver à les sortir du ghetto dans lequel lui ou elle se trouve? Il faudrait bien que les environnements puissent être favorables pour que ces personnes puissent sortir et qu'elles puissent avoir accès aux soins, accès à la prévention, accès au traitement. Et c'est tout le travail que nous essayons de faire actuellement, pas seulement le travail de disponibiliser les traitements, disponibiliser la prévention, mais également de pousser les États, de pousser les pays à faire en sorte que l'environnement puisse être favorable et que les personnes puissent avoir accès au traitement et accès aux soins.
Est-ce que ça protège justement, Yves Yombe, d'être proche ou d'être membre de Coalition Plus quand on est comme ça en situation, on peut le dire, de quasi-clandestinité, en tout cas de grande vulnérabilité?
Bah, protéger, on n'a pas de passeport diplomatique quand on est à Coalition Plus, donc je veux juste ça là-dessus.
Vous êtes un Camerounais comme les autres.
On est un Camerounais comme les autres, on est un Africain comme les autres, mais le fait d'appartenir à une dynamique qui est globale, ça donne quand même une certaine assurance, ça donne quand même une certaine voix auprès auprès des autorités, auprès des instances, tant nationales, régionales qu'internationales, de pouvoir porter quand même la voix des sans-voix dans les instances où, par le passé, on n'avait pas droit à la parole. Donc, la coalition plus nous donne cette opportunité de pouvoir faire avancer notre plaidoyer et de pouvoir être entendu par ces différentes autorités.
Même question à vous, Nicolas Ritter. Qu'est-ce que ça apporte pour une association comme la vôtre, Maurice Pils, d'appartenir à ce réseau ?
Énormément de choses. Akima a parlé plutôt de la mutualisation de nos expertises développées au cours de ces 20 dernières années. Mais plus concrètement, je vais vous donner un exemple qui vient de se passer à l'île Maurice. Pils est cofondateur de l'association Arc-en-Ciel, du collectif Arc-en-Ciel, qui s'occupe des questions LGBT à l'île Maurice et qui est organisateur de la Marche des Fiertés depuis 13 ans. Et cette année, à l'île Maurice, nous avons eu un incident assez important qui a contraint la marche à ne pas se dérouler face à un islamisme radical qui était très fort et très violent et qui s'est manifesté par aussi des menaces de mort envers les activistes LGBT de l'île Maurice. Et l'appartenance à Coalition Plus nous a permis immédiatement de pouvoir sécuriser les fonds pour protéger les personnes menacées, de renforcer la sécurité des structures qui accueillent les personnes LGBT pour la continuité des services et des soins. Donc il y a une réactivité et une solidarité immense et très forte qui se fait immédiatement en situation de crise. Au-delà de ça, bien entendu, notre union permet, comme l'a dit aussi Akima, de porter notre plaidoyer au niveau mondial. L'épidémie à l'île Maurice est véhiculée par des questions de seringues chez les personnes qui s'injectent des drogues. Nous militons à l'île Maurice pour une évolution des politiques sur les questions des drogues. Mmh. Et ce plaidoyer est aujourd'hui porté par l'ensemble de la coalition au niveau des instances mondiales. Donc nous sommes en plein dedans, du local au global, quoi.
Justement, je voulais venir, professeur Akima Imish, il y a cette dimension, Yves Yom se bat au Cameroun justement pour les droits, même chose à Maurice, c'est aussi un socle commun, un socle de valeurs communes à travers ce réseau.
Absolument, absolument, nous partageons tous la même éthique, nous partageons tous les mêmes valeurs de droits humains, nous sommes tous pour le combat pour la reconnaissance des droits de tous les gays, pour la non-criminalisation de la prostitution, pour la non-criminalisation de l'usage de drogue. Et Yves disait, on n'a pas de passeport diplomatique, c'est vrai, mais dès que il se passe quelque chose, dès que l'un de nos membres, où qu'il se trouve, est menacé par les autorités de son pays, il y a immédiatement une réaction dans toutes nos associations, c'est immédiatement porté auprès de la presse, auprès des organismes internationaux, et nos gouvernants n'aiment pas trop ça, donc parfois ça les calme quand même.
Alors, ce socle commun, mais on peut dire des domaines d'intervention différents. Docteur Bintou Dembélé, Arkat Sida, vous prenez en charge majoritairement des femmes, hein, c'est une spécificité de cette organisation malienne. Comment est-ce que vous l'expliquez ?
Je me dis, aujourd'hui, c'est indépendamment de ce socle commun qui nous unit tous, nous avons aussi des renforcements des capacités. Aujourd'hui, mon organisation a suffisamment de capacités pour assurer la prise en charge de ces femmes. Mais Coalition Plus, c'est aussi un ensemble d'organisations que je soutiens en tant qu'Arcat Sida, porteuse de la plateforme Afrique de l'Ouest et du Centre. Aujourd'hui, c'est 20 associations contre le sida pour 8 pays que la plateforme Afrique de l'Ouest soutient, renforce. C'est une dynamique sous-régionale de renforcement de capacité sud-sud. Et c'est ce qui fait l'originalité. Je suis africaine, je suis malienne, j'ai appris des choses à travers l'union que j'ai dans Coalition Plus. Et ces connaissances-là me permettent aujourd'hui de les redistribuer à d'autres associations beaucoup moins fortes, mais qui sont dans la même dynamique. Parce que nous sommes dans une sous-région commune, nous avons des aspects socio-culturels qui nous ressemblent. Donc, de ce fait, nous partageons facilement des choses. C'est cette dynamique sud-sud-là qui fait l'originalité de ce Coalition Plus.
Des interactions et pas simplement des flux, comme on a souvent l'impression de le voir, nord-sud, avec une sorte de volonté d'influer avec ses propres modèles, ses propres exemples, des retours d'expérience. Mais j'insiste quand même sur cette dimension féminine propre à Arcat Sida pour bien parler aussi des risques particuliers pour les femmes et pour les jeunes dans cette région ouest-africaine.
Oui, aujourd'hui, Arcat Sida, quand même, un site à des sites de prise en charge et nous assurons la prise en charge de 20 000 patients vivant avec le VIH-SIDA. Et depuis plus de 10 ans, 60 à 65% des filles actives que nous avons sont des femmes. La particularité de cela, nous sommes dans un pays où les femmes sont majoritairement les plus nombreuses, mais aussi les plus vulnérables. Parce que nous savons aujourd'hui que nous sommes dans un contexte économique pas évident pour les femmes. Socio-culturel où la femme est toujours un peu léguée en second plan. Et aussi des conditions religieuses qui font que la femme, elle est toujours sous le joug de son homme, du mari. Donc tous ces éléments, tous ces facteurs la rendent la femme vulnérable par le VIH-SIDA. Donc il est extrêmement important que dans nos interventions, que nous puissions nous focaliser davantage sur des plaidoyers pour que la transmission mère-enfant du VIH-SIDA, par exemple, puisse être vraiment une réalité, pour que nous puissions nous conduire vers l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH-SIDA. Et ces activités-là, nous les répliquons dans les pays qui sont membres de la plateforme Afrique de l'Ouest et des centres.
Avec justement une grande connaissance de terrain, comme par exemple quand vous vous adaptez aux situations propres, quand vous ouvrez une clinique nocturne pour atteindre les populations clés, est-ce que vous pouvez me décrire justement cette démarche spécifique, docteur Dembélé?
Depuis 2010, cette clinique nocturne de santé sexuelle existe. Elle existe pour les populations les plus vulnérables. Les hommes qui ont le sexe avec d'autres hommes, les travailleurs de sexe, les usagers des drogues. Parce que dans mon pays, toutes ces populations-là ont 10 fois de plus, la prévalence plus élevée 10 fois que la population générale. Et cette population-là est laissée pour compte. Cette clinique-là s'ouvre de 16h à 23h, donc en dehors des heures classiques d'ouverture. Et cette clinique-là a pour mission d'apporter de façon fixe au sein de la clinique, mais aussi mobile, des activités de prévention, des activités de prise en charge médicale, des infections opportunistes, mais aussi du sida, mais des activités d'accompagnement et de soutien. Donc, si vous regardez les offres de services que nous faisons, vous verrez que les communautés sont au centre. Par exemple, les activités de prévention, le dépistage communautaire, c'est réalisé par les communautés d'ETS, par les communautés de HSH, par les communautés de travail de sexe qui vont sur le terrain, qui se dépistent entre pairs. Donc ça, c'est une partie de nos activités qui est assurée. Si vous voyez aussi la prise en charge, la distribution à base communautaire de médicaments entre rétroviraux, c'est fait au sein de la communauté. C'est ces personnes-là qui amènent, qui dépistent sur le terrain, qui réfèrent la personne infectée par le VIH-SIDA, qui assistent à sa prise en charge, ensuite qui font le relais entre la structure de santé et la personne qui est malade.
Ce qui permet de faciliter et d'améliorer l'observance.
D'observance et les perdus de vue. La personne est dans un réseau resserré où la personne prend ses soins. Et l'accompagnement, tout le soutien est assuré par les patients experts, les médiateurs, les conseillers psychosociaux qui sont au début et la fin de nos activités. Et c'est ça la démarche communautaire. Et c'est ça l'originalité de l'approche que nous faisons au sein de Coalition Plus.
Soutien médical, soutien psychologique, vous proposez ça aussi par le biais de PILS, Nicolas Ritter?
Tout à fait, avec la différence que l'État a la responsabilité de la dispensation des antirétroviraux nécessaires aux personnes vivant avec le VIH et des bilans biologiques CD4 et charge virale.
Des bilans sanguins intermédiaires, voilà. Pour savoir justement où en est la charge virale.
Où en est l'évolution de la maladie. Chez la personne concernée. Au-delà de ça, nous faisons comme nos partenaires marocains ou maliens, c'est-à-dire du dépistage démédicalisé par des personnes formées, des volontaires, des personnes concernées qui vont dans les réseaux de personnes qui sont difficiles à atteindre, que ce soit les personnes qui utilisent des drogues, les personnes homosexuelles, bisexuelles, trans, les personnes qui sont en situation de prostitution. Donc, et nous arrivons en complément du travail du ministère de la Santé sur une offre de santé sexuelle, syphilis, gonorrhée, VIH, chlamydia, et parce que c'est assez mal fait, en tout cas ça pourrait être amélioré dans notre pays, et l'île Maurice est confrontée comme partout à une recrudescence des IST que nous devons absolument stopper si on veut être efficace dans notre réponse au VIH.
Yves Yomb, on parlait tout à l'heure de la répression, de la vulnérabilité. Ça veut dire que quand on appartient à certaines communautés, peut-être que le besoin de soutien psychologique et même ce sentiment d'appartenance sociale est encore renforcé. C'est ce que vous voyez sur le terrain au Cameroun?
Oui, c'est extrêmement fort ce qu'on observe sur le terrain. Vous êtes très loin d'imaginer quel peut être le poids de la répression sur les populations les plus marginalisées dans la lutte contre le sida. Donc, on a besoin de cette appartenance. C'est même ça qui a été à l'origine des différentes organisations identitaires, que ce soit des personnes gays, des personnes travailleuses du sexe, etc. Parce qu'on était un peu en manque de cette solidarité, de cet sentiment d'appartenance à un groupe. Et ça a fait en sorte qu'il y a eu plusieurs groupes qui se sont formés pour pouvoir apporter ce soutien dont vous parlez aux personnes qui étaient criminalisées, qui étaient rejetées par la société.
Mais ça veut dire qu'au jour le jour, on vit dans la clandestinité, par exemple, quand on a un siège, il n'a pas pignon sur rue, on travaille comment?
On ne vit pas dans la clandestinité, mais c'est un peu la clandestinité aussi, parce qu'il est très difficile d'être accrédité comme une association identitaire homosexuelle dans nos différents pays. On se cache toujours dans la lutte contre le sida pour pouvoir faire avancer les questions de droit. Donc la plupart des organisations qui sont accréditées à travailler sur les questions des populations clés sont accréditées sous le label Association de lutte contre le sida. Donc pour moi, c'est une forme de clandestinité pour pouvoir faire avancer les choses.
Professeur Hakim Aymich, ça veut dire qu'aujourd'hui, les questions sanitaires, c'est un vecteur absolument clé aussi pour faire avancer les droits de l'homme?
Oui, absolument. Absolument. Et d'ailleurs, pour répondre à votre question, comment on fait dans des pays où l'homosexualité est criminalisée, où le travail du sexe est criminalisé, comment on fait, où l'usage de drogue est criminalisé, comment on fait pour travailler? Bien, rapidement, l'exemple de l'association de lutte contre le sida au Maroc, nous sommes très tôt, très vite appuyés sur les associations de droits de l'homme. Et par exemple au Cameroun, une association identitaire a pu se créer. Ça n'est pas partout le cas. Au Maroc, c'est impossible. Donc c'est effectivement au sein de la LCS que ce soutien psychologique, que ce travail sur l'estime de soi est fait dans l'association de lutte contre le sida. Et je voulais juste dire, par rapport à ce qu'a développé Bintou et de votre question sur la clinique des Halles de Bamako, c'est un modèle pour nous tous. On veut tous avoir notre clinique des Halles et on va à Arcade Sida pour voir comment ça se passe et on va à l'île Maurice pour voir comment on travaille avec
les personnes. Parce qu'on voit vraiment là que c'est la structure qui s'adapte à la réalité et non pas l'inverse. On n'est pas à se plier aux contingences sanitaires, matérielles, les horaires, les files d'attente, la reconnaissance dans la rue. Non, c'est la société finalement qui s'adapte à cette réalité.
C'est l'association qui s'adapte à cette réalité. Et ceux qui le font le mieux, eh bien, on se déplace. C'est pas. Nous avons beaucoup de formations à Coalition Plus, mais ce n'est pas que des formations formelles dans une salle de réunion. Hein. Nous nous déplaçons beaucoup les uns chez les autres pour apprendre des uns et des autres. Si vous permettez, nous sommes sur RFI. Je me permettrai de dire que la France a apporté un grand soutien à la lutte contre le sida jusqu'à présent, que l'AFD nous aide beaucoup. Et que nous attendons beaucoup de la conférence de restitution du Fonds mondial
de l'année prochaine
en France pour que la France soit le moteur du renforcement du financement, particulièrement dans les pays francophones d'Afrique.
C'est un sujet qui reviendra régulièrement, en tout cas dans cette émission au cours des prochains mois. Vous pouvez compter sur nous et vous restez avec nous. On va se retrouver dans quelques instants, toujours pour évoquer les 10 ans du réseau Coalition Plus, une décennie d'action de terrain pour faire reculer l'épidémie de VIH-Sida.
Priorité santé sur RFI. Dakar 92 FM. Saint-Louis 99.7 FM.
Émission enregistrée au Sénégal, à Sali, où l'on poursuit notre débat avec quatre membres de Coalition Plus, quatre pays représentés au micro de Priorité Santé. Deux des pays fondateurs, le Maroc, Maghreb, Moyen-Orient, à travers vous, professeur Hakim Aymich, présidente de Coalition Plus, le Mali, l'Afrique de l'Ouest, avec vous, docteur Bintou Dembélé, directrice de l'association Arcade Sida Mali, administratrice de Coalition Plus, et vous, messieurs, l'île Maurice, l'océan Indien, l'association PILS que vous dirigez, Nicolas Ritter, et le Cameroun, Yves Yom, coordinateur du réseau de l'Alliance globale des communautés pour la santé et les droits. On a compris un partage d'objectifs, des interactions, des retours d'expérience. On va justement parler de cette décennie écoulée, le travail qui porte aussi sur des changements de comportement et beaucoup de nouveautés du côté de la recherche, du côté des traitements. Professeur Hakima Imich, justement, la volonté de faire évoluer les mentalités, et Coalition Plus a milité pour la démédicalisation. Là, on change l'axe d'attaque, d'approche. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? Ça veut dire que la prévention doit revenir au premier plan de la prise en charge des personnes, des communautés ou des personnes qui font partie des populations clés?
Non seulement il n'y a pas suffisamment de médecins en Afrique. 67% des personnes vivant avec le VIH vivent en Afrique et il y a 3% des médecins. Bintou, je la cite souvent, elle dit « Dans mon pays, il y a un médecin pour 10 000 habitants. 10 000. C'est, alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Ça, c'est le premier
aspect. Ça fait beaucoup de monde dans la salle d'attente.
Voilà, ça, c'est le premier aspect, c'est que nous n'arriverons pas à mettre fin à l'épidémie de sida en 2030, comme on en rêve, si on ne démédicalise pas. Mais on ne se contente pas de suppléer au manque de médecins. Chacun de nous, dans nos pays, nous avons prouvé que la démédicalisation était un plus. Je donne l'exemple que je connais le mieux, celui de l'association de lutte contre le sida au Maroc. Aide à démédicaliser a obtenu l'autorisation du ministère de la Santé démédicalisé tout de suite avec notre éthique à Coalition. On s'est dit, mais attendez, mais ça va pas rester au Nord, hein. Ça doit tout de suite se généraliser dans toutes nos associations. Et nous avons réalisé une étude de faisabilité du dépistage communautaire, de la démédicalisation du dépistage dans notre pays. Eh bien, on s'est rendu compte que 40% des personnes que nous avons touchées avec cette démédicalisation, ne s'était jamais adressé à un centre de santé, ni même à un centre de notre association. Parce que là, on va vers eux, là où ils sont.
On touche pas les mêmes populations du tout.
Deuxième avantage énorme, au Maroc, l'État fait des dépistages, la LCS aussi, notre association aussi. L'État réalise 1 million de dépistages, nous, 100 000, et nous faisons 50% de positifs. Donc, nous sommes infiniment plus efficaces qu'avec le dépistage médical classique. Parce que les horaires sont adaptés, parce que nous nous déplaçons vers les personnes, parce que c'est des communautés qui ne sont pas à l'aise avec les blouses blanches, qui sont... Dans tous nos pays, nous avons prouvé que la stigmatisation ne s'arrête pas à la porte des centres de santé. Elle est présente aussi dans le milieu médical.
Et c'est quelque chose, un message aussi que vous portez au Mali, docteur Bintou Dembélé, justement, d'amener le soin jusqu'aux patients et non pas de demander aux patients forcément ou à la personne qui va voir le médecin d'être prise en charge dans un centre de santé directement.
Bien sûr. Au sein de la communauté, il y a des actions qui se font, des actions de dépistage, de sensibilisation. Aujourd'hui, nous avons pu, au mois de décembre dernier, réaliser des dépistages communautaires qui ont amené les personnes qui ont été formées, 25 personnes formées pour faire ces dépistages-là, ont dépisté environ 480 personnes. Et parmi ces 480 personnes, comme l'a dit Hakima, près de 40% de ces personnes n'avaient jamais eu accès au dépistage. Et c'est énorme. Aujourd'hui, le dépistage est possible dans une boîte de nuit, dans les lieux de sociabilisation. Donc, c'est possible partout d'offrir à des personnes qui sont des personnes très vulnérables l'opportunité de dépister où est-ce qu'ils veulent, quand est-ce qu'ils veulent, avec qui ils veulent. Et c'est ça l'intérêt de ce que nous offrons comme stratégie.
Alors, dépistage adapté, prévention aussi adaptée à certaines populations cibles. Nicolas Ritter, on pense à la PrEP. Comment ça se passe à Maurice? Où en est cette politique de prévention? D'abord, réexpliquer pour le grand public.
Donc, la PrEP est un traitement de prophylaxie préventive pour les personnes séronégatives au VIH, qu'elles peuvent prendre, comme on prend un traitement pour ne pas attraper la malaria. Donc on prend un traitement pour ne pas attraper le VIH au cours d'un rapport sexuel. C'est extrêmement efficace. Alors la PrEP n'est pas encore intégrée à l'île Maurice de façon systématique. Elle est en mini-pilote au niveau du ministère de la Santé. Et nous venons de recevoir une bonne nouvelle qu'un projet commun, d'ailleurs posé par Coalition Plus, pourrait nous aider à aller plus loin dans ce plaidoyer auprès des autorités et même de faire de notre dispositif de santé communautaire un lieu qui pourrait accueillir des personnes désireuses de monter sous ce traitement. Donc notre travail ne consiste pas simplement à donner des services, mais aussi à faire évoluer les politiques de santé nationales. On travaille au niveau de l'évolution des politiques de santé internationales, avec l'ONU SIDA, avec l'OMS, avec UNITED, avec le Fonds mondial, mais on travaille aussi au niveau local à faire comprendre à nos médecins, à nos décideurs, l'intérêt d'aller dans telle stratégie. Le traitement comme outil de prévention, par exemple, ça a été pas simple à faire comprendre et à l'intégrer. Aujourd'hui, c'est acquis, c'est intégré. Aujourd'hui, on met systématiquement une personne sous traitement dès qu'elle apprend sa séropositivité. C'était pas le cas il y a 2 ans. Hein. Donc, et la PrEP va certainement être intégrée de façon plus formelle grâce à la coalition plus et grâce au travail local des organisations qui croient dans cette mesure qui va certainement changer la face de l'épidémie. Donc on peut parler aussi des programmes d'échange de seringues. L'île Maurice a été le premier pays d'Afrique à introduire des programmes d'échange de seringues pour les personnes qui utilisent des drogues. Ça a été à l'initiative de la société civile. C'était vraiment nous qui avons commencé de façon d'ailleurs illégale ce projet et qui avons démontré à travers un pilote que ça fonctionne et que l'acceptabilité aussi de ce programme dans les communautés locales où il y a énormément de consommation de drogue était particulièrement bonne à partir du moment où on expliquait aux gens qu'est-ce que c'est que l'addiction, qu'est-ce que c'est que l'héroïne, quelles sont les conséquences aussi des programmes que l'on souhaite mettre en place et pourquoi on les met en place et l'accessibilité du coup des programmes d'échange de seringues et après de l'introduction de la méthadone comme produit de substitution a été remarquable. Mais tout ça, c'est fait grâce à une société civile mobilisée sur ces questions et on y serait parvenu tôt ou tard, je pense, mais on aurait perdu quelques années et donc avec des personnes contaminées de façon inutile.
Avec ce rôle d'accélérateur, illustration à Maurice, avec des choses complètement différentes dans d'autres parties du continent, au Cameroun, Yviombe, un état des lieux tout simplement de l'accès au traitement. Est-ce qu'aujourd'hui, partout sur le territoire, pour le traitement de base antirétrovirale, c'est quelque chose qui est accessible ou il y a encore des disparités territoriales ou régionales?
Et non, mais il y a toujours les disparités. Quand on compare un peu l'arrière-pays, notamment les villages, par rapport aux grandes villes, on se rend compte que la facilité pour l'accès au traitement, c'est beaucoup plus au niveau des grandes villes que ceux qui sont dans les villages. Ceux qui sont dans les villages sont obligés de parcourir des kilomètres et des kilomètres pour avoir accès à un centre homologué comme étant une unité de prise en charge pour avoir accès au traitement. Mais il faut dire qu'il y a quelque temps, le ministère de la Santé a sorti un arrêté ministériel qui donnait droit aux communautés, notamment aux associations, de pouvoir distribuer le traitement. Ils ont appelé ça les PODIC, les points de dispensation communautaire des ARV. Donc, pour nous, c'est une avancée, mais qu'il faut généraliser parce que, d'après ce que nous avons entendu, c'est une phase pilote pour voir si les communautaires sont capables.
Justement, j'avais cette question. Est-ce que le maillage territorial est suffisant, finalement, pour que les associatifs, que les communautaires pallient, finalement, les carences étatiques? Parce que si l'État accepte de déléguer cette dispensation de soins, c'est bien parce qu'elle n'est pas à la hauteur d'une certaine manière.
Oui, c'est parce qu'il y a aussi des pressions par rapport au plan d'urgence. Donc, le professeur Akima a parlé tout à l'heure où on a dit que la région d'Afrique de l'Ouest et du Centre était très en retard sur plusieurs domaines, et notamment le domaine de l'accès aux soins, et ce qui a poussé également le Cameroun de pouvoir de commencer à agir en déléguant une partie de ses prérogatives aux communautaires, notamment aux associations, pour délivrer ce traitement-là. Dommage que ce soit limité, parce que même cette dispensation communautaire, ça se limite dans les grandes villes. Quand on regarde les associations qui sont accréditées à dispenser les médicaments ARV, c'est les associations qui sont situées dans les grandes villes, c'est pas les associations qui sont dans les villages. Donc, le problème de disparition d'accès au traitement continue toujours. Quand on est habitant de la grande ville ou quand on est habitant d'un petit village du Cameroun.
On n'a pas le même traitement, professeur Akima Imé, je voulais réagir.
Je voulais juste rajouter l'exemple du Burundi où l'ANSS, qui est membre de notre coalition, a initié avec l'accord du ministère, de son ministère de la Santé, la dispensation des antirétroviraux dans des villages éloignés par des acteurs communautaires formés par elles. Vous posiez une très bonne question, est-ce que nos gouvernants, nos ministères de la Santé veulent bien collaborer avec nous? Ils n'ont plus le choix. Ils n'ont plus le choix, d'abord parce que nous sommes très forts, chacun, dans notre pays et dans notre région, parce que ils écoutent quand même ce que dit l'OMS et ce que dit l'ONU-SIDA. Or, l'OMS et l'ONU-SIDA sont pour la démédicalisation, sont pour l'implication des communautés à fond. Ils n'arrêtent pas de le leur répéter. Cela dit, ça se passe pas toujours simplement. Je vous ai parlé de la démédicalisation du dépistage au Maroc. On a fait notre expérience, on a prouvé que c'était excellent. Ça a été évalué par un expert international. Et à ce jour, le service juridique du ministère de la Santé, on a commencé en 2015, il n'a pas encore donné l'autorisation. Résultat, nous travaillons sans autorisation, comme vous l'avez fait, vous, avec les personnes usagères de drogue. Ça fait 3 ans que nous attendons cette autorisation. Et si on prend l'ensemble des pays de l'Afrique, de l'Ouest et du Centre, il n'y a pas un seul qui autorise officiellement le vôtre. Ça y est, c'est
le Mali.
Fait.
Le Mali, je me retourne vers
vous. C'est marrant, dans cette carte, vous n'étiez cité comme un pays qui n'avait pas répondu, la carte à laquelle je fais référence. Mm-hmm. Mais il y a très peu de pays qui acceptent la délégation des tâches, la démédicalisation, comme nous osons l'appeler avec un peu de provocation.
Ça veut dire, docteur Bintou Dembélé, que finalement, les autorités maliennes font preuve tout simplement de réalisme?
De réalisme. Il est inscrit depuis un certain temps dans notre protocole thérapeutique de prise en charge, la délégation des tâches des personnes. Il y a un décret du ministère de la Santé là-dessus. Il y a aussi les normes procédures de dépistage qui ont intégré le dépistage démédicalisé, dépistage fait par les communautés. Et je pense que c'est une avancée notable qui a été faite grâce au plaidoyer continu que nous faisons. Mais ce qui est aussi important de dire, c'est qu'à l'occasion de nos 10 ans de commémoration, nous avons aussi eu un travail de corps à corps avec les associations de lutte contre le sida du Sénégal, les autorités du Sénégal, le Conseil national de lutte contre le sida, pour pouvoir faire en sorte que cette démédicalisation du dépistage puisse être une réalité.
Professeur Hakima Imich, vous avez dit le VIH est une épidémie que nous ne pouvons pas combattre, hein, je vous cite, si on se limite à son seul aspect médical. Sur le plan légal, que fait Coalition Plus pour changer les choses? On parlait tout à l'heure, on utilisait ce terme répression. Derrière, il y a forcément la stigmatisation, la discrimination. Qu'est-ce que vous faites au chapitre légal?
Il va parler de ce que fait Coalition en matière de soutien des communautés gays africaines. Nous sommes présents à Genève. Chacun de nous agit dans son pays. Nous n'arrêtons pas d'affirmer le rappel des droits humains, le droit à chacun d'être ce qu'il est. Bon, jusqu'à présent, comme le disait Yves, on n'a pas remporté de victoire sur les législations. C'est trop lourd.
Vous vouliez réagir, Nicolas Ritter?
Oui, parce que Coalition Plus nous a permis aussi, et nous permet aussi, d'avoir professionnalisé quelque chose qui était déjà au sein de nos associations, mais qui n'était pas vraiment formalisé, à savoir la fonction de plaideur, la fonction de plaidoyer. Et nous avons au sein de nos structures des plaideurs décentralisés dont la moitié du temps est passée sur des enjeux de plaidoyer nationaux, donc travailler avec les députés, les parlementaires, les politiques,
ça veut dire
les
médecins, des personnes d'influence, on va voilà, dire, sans mauvais esprit, juste aller
exactement
donner justement de votre message.
Le message qu'ils comprennent et pouvant amener à des révisions législatives nationales, et on a eu quelques petites victoires à l'île Maurice à ce sujet, et dans le même esprit, travailler de concert avec l'ensemble de ces plaideurs sur une évolution des législations international pour faire évoluer les politiques en matière de drogue, mais aussi les approches en santé, démédicalisation, c'est une chose, mais il y en a plein d'autres, tout ce qui touche autour du VIH. Donc avec cette fonction très particulière, c'est un vrai métier aujourd'hui que le plaidoyer, et ça a vraiment une plus-value chez Coalition Plus qui est phénoménale. Depuis que nous avons rejoint Coalition Plus, nous n'avons jamais eu à le regretter d'une part, mais nous avons surtout vu la fonction de plaidoyer prendre une une vraie importance dans notre structure nationale, à tel point que nous avons amené chez Coalition Plus aussi des nouvelles thématiques de plaidoyer pour pouvoir en faire une mission globale et intervenir. D'ailleurs, à la conférence mondiale sur le VIH à Amsterdam, Coalition Plus va porter essentiellement un message autour des questions des politiques mondiales sur les drogues qui sont en train de d'évoluer, comme on le sait, et nous allons renforcer ce message de façon à espérer et pouvoir et faire évoluer les politiques et les lois au niveau mondial.
On a compris hein, avec le Cameroun, des lois toujours très restrictives. Yvion, justement, comment est-ce qu'on fait au quotidien pour militer lorsque la cause que l'on porte, au-delà des questions de santé, cette cause reste complètement taboue, y compris au niveau des autorités. Est-ce qu'on n'a pas l'impression un petit peu de se sacrifier ?
Bah oui, un tout petit peu sacrifié, parce que bon, quand on donne le visage à une lutte qui est entre guillemets perdu d'avance, on peut se dire pourquoi est-ce qu'on s'impliquerait assez. Quand j'ai fini mes études à l'université, j'étais banquier, je travaillais dans une banque. Mais quand j'ai vu les personnes qui étaient arrêtées, simplement sous le fait d'être ce qu'elles sont, j'ai dit, mais on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à arrêter les gens sur la base du fait qu'ils sont simplement ce qu'elles sont. Donc, il faut faire quelque chose. Il faut que certaines personnes puissent se lever. Nous sommes un peu les Mandela de la lutte contre le sida, de la défense des droits des personnes LGBT en Afrique et au Cameroun.
Oui, parce qu'il y a des gens qui font de la prison pour ça, il faut le rappeler.
Exactement. Il y a des dizaines et des dizaines de personnes par an qui sont emprisonnées, tout simplement le simple fait qu'elles sont ou qu'ils sont ce qu'elles sont. Donc, pour nous, c'est la rage qui nous fait tenir, c'est l'indignation qui nous fait tenir, et c'est tout ça qui fait en sorte qu'on est encore là jusqu'aujourd'hui.
10 années d'existence pour Coalition Plus, professeur Hakim Aymich. Est-ce que les associations gardent toutes leurs capacités de mobilisation? En tout cas, on vient de l'entendre avec Yves Yourme. Ou est-ce que les choses ont changé? J'aurais envie de dire, est-ce qu'on s'est pas un petit peu installé dans une sorte de confort par rapport à tout ce qui avait été acquis, où on garde justement cette capacité d'indignation, de mobilisation?
Elle est intacte. Elle est intacte. Elle est même renforcée par la coalition. Nous l'exerçons chacun dans nos pays. Nous l'exerçons au niveau international à toutes les occasions. Il vient de le dire. En fait, nous sommes tous des militants. C'est ça notre principale motivation. C'est ça notre moteur. Et tant que la lutte contre le sida et les hépatites ne sont pas terminées, car il ne faut pas oublier que nous sommes aussi très engagés pour l'accès au nouveau traitement de l'hépatite C, qui est inaccessible dans les pays du Sud à cause de son coût extrêmement élevé, puisque même les pays occidentaux, même pour les pays occidentaux, c'est inaccessible, le prix est vraiment très 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 élevé. Donc, tant qu'il y a une personne qui n'a pas accès à un traitement, tant qu'il y a une nouveauté prouvée par la recherche, prouvée par l'expérience au Nord et qui n'est pas généralisée au Sud, nous avons du travail et nous sommes là. Bon, vous savez, moi je suis à la retraite depuis un certain temps de la faculté de médecine et puis ben voilà, je suis toujours là à Coalition, à la LCS.
Toujours active. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission enregistrée au Sénégal à l'occasion des 10 ans de Coalition Plus. Merci à vous, professeur Hakim Aymich, présidente de ce réseau international, à vous, docteur Bintou Dembélé, directrice de l'association Arcade Sida Mali, à vous Nicolas Ritter, directeur de l'association Pils Maurice, Yves Yourme, coordinateur du réseau Alliance Globale des Communautés pour la Santé et les Droits au Cameroun. Une émission réalisée en partenariat avec vous à l'occasion de ce congrès anniversaire de Sali.
RFI Mbaké, 100.2 FM. Guinchor, 87.6 FM.
Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Aujourd'hui au Sénégal, Ophélie Lassène et Richard Rifono, Didier Bleu et Assetoussa Maké à Paris. Pourrez écouter cette émission en podcast sur notre application Pure Radio et bien sûr sur le site rfi.fr, rubrique émission. On se retrouve lundi.
Priorité santé. l'été avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.